Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Le 5 juin, on célébrait, comme chaque année, la Journée mondiale de l'environnement. Comme chaque année peut-être, mais avec chaque fois le sentiment que l'urgence à la protection des écosystèmes est un peu plus grande. Quel lien tisser entre l'environnement, le droit et le numérique? Eh bien, plus qu'on ne pourrait le croire. Pour en parler, Hawa Sam, bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous êtes docteur en droit, enseignante à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime. Vous y êtes chef du département filière génie maritime et référent du pôle recherche risque maritime. Avec vous, Claudia Restrepo-Ortiz, bonjour.
Bonjour Sophie, merci de l'invitation.
Merci, vous êtes ingénieure en calcul scientifique au sein de l'unité mixte de recherche MARBEC, Marine Biodiversité, Exploitation et Conservation, au sein du dispositif d'écologie numérique. Vous y êtes donc spécialiste en deep learning. Des contraintes matérielles vous imposent toutes deux d'être à distance pour cette émission, mais vraiment merci beaucoup d'avoir accepté cette intervention sur un sujet dont vous êtes toutes deux spécialistes. Intelligence artificielle et environnement, chers auditeurs, bienvenue dans cette émission des temps électriques.
Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète, laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la Terre. Voici Wally. Après toutes ces longues années, il a développé un petit défaut technique.
Wow.
Une forte personnalité. Il est extrêmement curieux. Et un petit peu trop seul. Mais tout cela est sur le point de changer.
Sorti en 2008 par les studios Pixar, le film d'animation Wall-E nous projette symboliquement dans une vision futuriste, comique mais aussi percutante, d'une planète où l'environnement a été détruit par une société d'hyperconsommation. Vision exagératrice ? Pas tant que ça. Il y a quelques jours, le secrétaire général sur l'action climatique alertait vivement en ces termes dans une allocution spéciale. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'environnement. C'est aussi le jour où le service Copernicus, concernant le changement climatique de la Commission européenne, annonce officiellement que mai 2024 est le mois de mai le plus chaud de l'histoire. Les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés. Depuis un an, chaque mois nouveau est un nouveau record de chaleur. La planète essaie de nous faire passer un message, mais nous ne semblons pas l'écouter. Et pourtant, la sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps. Le WWF, première organisation mondiale de protection de l'environnement, recense dans son dernier rapport des chiffres sur les pollutions très alarmants et nous informe qu'en 40 ans, notre planète a perdu 60% des populations d'animaux sauvages. Réduction de la pollution, optimisation des ressources, réponse au changement climatique. Depuis une cinquantaine d'années, l'environnement occupe une place croissante dans les législations nationales et internationales. Ainsi, la politique environnementale européenne se fonde sur les principes de précaution, de prévention, de correction de la pollution à la source et du pollueur-payeur. En 2019 déjà, la Commission avait lancé le Pacte vert pour l'Europe, qui plaçait les préoccupations environnementales au cœur de l'élaboration des politiques de l'Union. L'entrée en vigueur de nouvelles réglementations en matière de climat et de critères ESG, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, pousse notamment les organisations et les entreprises à intégrer de manière plus proactive les considérations environnementales dans leurs opérations. Parmi les pistes pour ce faire, on commence à se tourner vers un autre sujet du moment, celui de l'intelligence artificielle. Sujet abordé à plusieurs reprises dans cette émission, l'IA fascine autant qu'elle suscite critiques et inquiétudes. Si son impact en termes de pollution est dénoncé, l'IA offre aussi de nouveaux outils pour mieux comprendre l'environnement. Face à des défis environnementaux de plus en plus grands, comment le numérique et l'intelligence artificielle peuvent-ils être mis à profit? On en parle dans un instant avec nos invités.
Anytime horse, it falls so dumb. Everyday horse, everyday horse, everyday horse, horse, horse for town, town, town.
front, go front, don't look your back. Sodomo, go, 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 go front, go front, don't look your back. Sodomo, go, go, go front, go front, don't look your back. Sodomo, baby girl, it's jam la Tony, Tony, Mirka Yuna, Nyanga, sweating yama jam Tony, 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 Mirka Yuni, Baya, 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 jam la Tony. Make a man in a Joe Baya, Baya, welcome, welcome.
Vous venez d'entendre un morceau de la bande originale du film documentaire Welcome to Sodom, réalisé en 2018 par Christian Krenes et Florian Weigenzammer. Sodom, c'est le nom symboliquement donné à un lieu de la banlieue d'Accra, capitale du Ghana, qui héberge la plus grande décharge électronique au monde, sur laquelle travaillent près de 6000 femmes, hommes et enfants. Cet endroit est l'un des plus toxiques sur Terre, car chaque année, près de 250 000 tonnes d'ordinateurs, smartphones, climatiseurs et autres appareils usagés y sont expédiés, du monde entier. Cette pollution numérique, on en parlera, bien sûr, dans quelques instants, mais pour débuter cet échange, c'est sur une note positive que je vous propose de commencer en envisageant la question à l'inverse. À l'inverse, parce que le pouvoir de la donnée est parfois tel que le numérique peut aussi se mettre au service de notre planète. Alors évidemment, cet apport de la donnée, le droit va en bénéficier. Awassam, je m'adresse à vous pour débuter cet échange. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'École nationale supérieure maritime et spécialiste en sécurité et sûreté maritime. Alors dans un contexte où les entreprises, je l'ai dit, évoluent dans une ère marquée par une prise de conscience accrue de leur impact sur l'humain, sur l'environnement, première question, quelles contraintes concrètement sont-elles tenues de respecter en termes de réglementation environnementale ?
Merci beaucoup Sophie pour cette question qui est plus que d'actualité, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Permettez-moi juste d'introduire quelques notions factuelles. Le transport maritime mondial, par essence, est une activité internationale et par conséquent induit des formes de pollution qui sont diverses et variées. L'Organisation maritime internationale est une institution spécialisée de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Dans cette dynamique-là et en tant que structure spécialisée des Nations Unies, l'OMI s'est engagée à soutenir l'objectif de développement durable des Nations Unies. Et dans ce contexte-là, l'OMI, dans le cadre de ses activités réglementaires, essaie de réduire le plus fortement possible l'activité des transports à travers le monde et surtout l'activité des navires. De ce fait, l'OMI s'est engagée à mettre en place une stratégie sur une période qui a démarré en 2018 dans son premier segment et qui va jusqu'à 2050. Et l'objectif ici, c'est de réduire les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre qui proviennent des transports maritimes internationaux d'au moins 20% d'ici à 2030 par rapport à 2008, en s'efforçant de faire passer ce pourcentage à 30% d'une part, et d'autre part, de réduire également ces émissions annuelles totales de gaz à effet de serre qui proviennent des transports internationaux d'au moins 70% à 2040 par rapport à 2008, en s'efforçant de faire passer ce pourcentage à 80%. Ce que je veux dire par là, pour faire assez simple, nous pourrons échanger plus en amont tout à l'heure, c'est que l'Organisation maritime internationale s'est engagée, en tout cas engage dans une dynamique normative qui est de plus en plus exigeante, tous les acteurs du monde du transport maritime à œuvrer dans le sens d'une réduction des gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, on a des réglementations qui ont été mises en place, telles que celle qu'on appelle la MARPOL, que tous les marins connaissent, qui est une réglementation qui est assez spécifique, qui impose des mesures techniques, mais à la fois opérationnelles aux armateurs. Les armateurs, c'est ceux qui exploitent les navires, qu'ils en soient propriétaires ou non, à mettre en place ce qu'on appelle des carburants marins alternatifs. Ce sont des carburants qui ont des teneurs en soufre qui sont moindres, donc qui vont impacter moins l'environnement, à recourir à des solutions technologiques innovantes, c'est-à-dire que ce soit le vélique, la voile en termes de transport ou d'autres technologies. L'idée au final, c'est de promouvoir la réduction au travers de technologies, la réduction de la pollution, quelle qu'elle soit, que ce soit la pollution de l'eau, la pollution de l'air également et la pollution des océans de manière générale. Et tout ce schéma-là va s'inscrire dans ce qu'on appelle la décarbonation du secteur maritime. C'est essentiel, voyez-vous, Sophie.
Et alors, dans ce contexte, parce qu'on entend des solutions classiques, on entend parler de voiles, on entend parler d'autres, effectivement, modes de locomotion, si j'ose dire. Dans ce contexte marqué par cette réglementation de plus en plus exigeante, comment la data et l'IA vont contribuer à ça?
La data est essentielle, puisqu'on va utiliser le numérique, la data, au service du transport maritime qui doit être durable. Lorsque vous regardez maintenant les transports maritimes, la donnée, elle est partout. L'idée maintenant, c'est de savoir comment lui donner un sens et surtout comment la mettre au service de l'environnement. Et pour cela, on va recourir à des solutions qui sont digitales, mais qui vont nous permettre de répondre à des normes environnementales qui peuvent être de plus en plus exigeantes. Typiquement, c'est la data qui va nous permettre de faire, par exemple, typiquement la cartographie de certains espaces. Quand on fait la cartographie de certains espaces, cela nous permet également de savoir lorsque les navires vont dans ces espaces ou traversent ces espaces-là, s'ils doivent réduire leur voilure, typiquement la question de la vitesse des navires de manière générale, la question également de cette cartographie ou en tout cas de ce recueil de données également va nous permettre de savoir s'il y a des espaces que l'on doit protéger, qu'on appelle des aires marines protégées, qui vont elles aussi avoir des réglementations en termes de navigation qui sont spécifiques. La data, elle est partout. On va parler de smart shipping. Les navires sont de plus en plus digitalisés maintenant. Par contre, cette digitalisation ne doit pas avoir un recours. En tout cas, on doit essayer d'amoindrir les impacts négatifs de cette digitalisation. Mais je reste toujours et je reviens à mon propos initial. Le numérique est partout dans le transport maritime et le numérique va permettre de réduire un certain nombre de types de pollution. Et c'est grâce au numérique, par exemple, que maintenant on peut choisir les routes qui sont optimisées. Et quand on parle de routage maritime, cela permet également de consommer moins de carburant, donc d'avoir moins de présence de navires sur les océans.
Cet exemple en fait que vous prenez au sens maritime, je suppose qu'on a la même chose dans l'aviation. Vous parlez des smart shipping, mais est-ce que finalement on a aussi des avions dotés de ce moyen de capter les données aériennes pour optimiser des flux, des couloirs de circulation ou autre, je suppose?
Bien sûr, complètement, chère Sophie. L'aviation a des contraintes qui sont similaires au maritime. Le mode de transport est certes différent, mais on est en face des mêmes enjeux, des enjeux de décarbonation, des enjeux de réduction de pollution de manière générale. L'aviation également est confrontée à ces problématiques-là en termes de réduction de consommation de carburant, de bruit également. Et on va utiliser également l'intelligence artificielle, la data, pour voir comment on va mieux gérer la question du trafic aérien, vous l'avez dit, autour des aéroports, comment gérer par exemple la question de la biodiversité, la question de la vie folle, la question également de l'acceptabilité autour des aéroports. Voilà, pas mal de thématiques et d'items qui au final doivent être gérés au mieux. Et quel que soit, là on parle de l'aviation, on a parlé du maritime, le terrestre aussi n'est pas étranger, en tout cas reste sensible, le secteur terrestre aussi, le transport routier, on parlera également d'intermodalité et autres. Donc voilà, quel que soit le secteur ou le mode de transport que vous prenez, il y a toujours ces enjeux qui sont gérés différemment certes, mais l'objectif final est le même, c'est la réduction en tout cas des types de pollution que génère cette activité de transport en utilisant au mieux l'intelligence artificielle ou alors la question des data de manière générale.
Alors, vous évoquez effectivement la question des recherches sur la biodiversité. Ça m'offre une transition parfaite vers vos activités à vous, Claudia Restrepo-Ortiz. Vous travaillez au sein du MARBEC, je l'ai dit, qui est une unité de recherche sur la biodiversité marine. Vous y êtes ingénieur et vous travaillez particulièrement au sein d'un plateau qui se nomme analyse de données et machine learning au sein d'un dispositif d'écologie numérique. Alors, pourriez-vous nous dire concrètement les objectifs de ce dispositif d'écologie numérique?
Oui, bonjour Sophie, merci encore pour cette invitation. Effectivement, dans le dispositif écologique numérique, et au sein au LIDEN, comme on l'appelle, on se concentre sur la gestion et l'exploitation des données numériques qui sont liées à la biodiversité marine. À Marbec, nous avons 6 ambitions en matière de recherche sur la biodiversité et ses usages. Et ça génère une énorme quantité de données, tant à partir des collectes in situ que de la modélisation ou de l'analyse. Donc, ces données sont en augmentation de plus en plus avec la mise en œuvre des projets et des recherches. Et pour répondre à ces contextes, donc, dans le DEN, nous visons à établir, coordonner et partager des ressources techniques et méthodologiques pour soutenir la recherche scientifique. Concrètement, cela s'est traduit par mettre en place des infrastructures partagées et des méthodologies communes, par exemple serveurs de stockage, serveurs de calcul, applications collaboratives, toutes dans un cadre institutionnel. Et aussi promouvoir le partage de nouvelles approches et des techniques entre les chercheurs par les biais des groupes de travail, des ateliers, des séminaires, des formations à des méthodologies spécifiques et des langages de programmation, par exemple.
Et pour faire le lien avec la réglementation qu'on évoquait pour débuter, effectivement, ça s'inscrit certainement dans un programme de développement durable. On a parlé de l'ONU tout à l'heure, en 2015. Les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 qu'on citait, avec un agenda précis. Et parmi les objectifs de développement durable, on retrouve en 14e objectif cette idée de conservation et d'exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers, avec une nécessité de préserver les zones marines et côtières. Donc je suppose, par exemple, pour la lutte contre la surpêche ou la pêche illicite, que les types de données que vous collectez peuvent aussi être des indications précieuses.
Les données collectées à partir de diverses sources telles que les satellites, les capteurs océanographiques et les observations sur le terrain fournissent évidemment plein d'informations précieuses sur l'état des écosystèmes marins et les stocks de poissons, par exemple, les activités de pêche. Et toutes ces données peuvent être analysées à l'aide des techniques déjà des IA, par exemple. Ils sont aussi des données qui sont visées à être dans le cadre de la science ouverte, être partagée d'une façon à grand public, qui peut être utilisée pour aider à la prise de décision ou mettre en place des stratégies qui puissent aider à la conservation, à la diminution des émissions de CO2, etc.
Et alors peut-être pour qu'un auditeur non technicien de la chose comprenne comment vous procédez, cette analyse, alors vous le faites en temps réel d'une certaine façon, on l'a compris, mais comment vous procédez concrètement? Est-ce qu'il y a des précautions particulières dans le maniement de ces données pour qu'ensuite on ait une... Parce qu'on sait, on parle souvent d'IA donc dans cette émission, on sait que la qualité des données recueillies a une incidence forcément sur les résultats qui sont ensuite générés. Quand on parle de ces données-là, on imagine cet océan face à nous. Quelles sont les précautions concrètement que vous prenez dans le maniement de ces données?
Bon, déjà, à Marbec, la plupart de nos analyses répondent sur des données collectées. Ce n'est pas des analyses en temps réel, c'est-à-dire nous étudions des données à long terme, c'est des collectes de données pour saison, pour pouvoir faire une vraie compression autour de tous les patrons, tous les facteurs qui puissent amener à certains patrons dans l'écosystème. Donc, en vérité, les données, c'est à Marbec, on collecte des données, par exemple des données des images satellitales ou des données pour les mammifères marins dans l'eau avec des caméras, des images, des sons. Et toutes ces données, ils vont arriver, on va dire, à tous les dispositifs, à toutes les mesures numériques que nous avons, c'est-à-dire des ordinateurs très puissants, très grands, et c'est là où on va faire les analyses, c'est-à-dire on va regarder ces données, on va faire des calculs, on va faire des statistiques dessus, et c'est à partir de là où après on peut avoir des résultats et des conclusions. Après, on va dire la réglementation par nos données, on reste toujours sur le cadre institutionnel, c'est-à-dire que nous à Marbec, on a 4 tutelles principales, c'est le IRD, le CNRS, l'Université de Montpellier et l'IFRAMER. Donc ces 4 tutelles, ils donnent plein de ressources pour le stockage de ces données. Donc c'est des ressources, c'est des données qui sont gardées dans des des ordinateurs très grands, on va dire, des serveurs. Ils sont, on va dire, protégés avec, il y a tout un système, toute une partie d'ingénierie derrière qui s'occupe de protéger ces données pour pas avoir des cyberattaques et plein de choses comme ça. Et aussi, après, on a des dispositions, parce que ça dépend aussi du type de données qu'on utilise. Si c'est des données issues des essais cliniques dans l'humain, par exemple, il y a des dispositions spécifiques à la réglementation pour utiliser ces données. Donc, il y a plein de choses à côté pour le traitement de ces données. Et une fois que les analyses, tout ici, on fait de la modélisation. On travaille aussi de façon très technique avec les pêcheurs. Il y a plein de projets qui visent à aller apprendre à regarder comment on peut optimiser aussi le métier de la pêche et travailler de côté à côté avec la pêche. Et une fois ces données ils sont acquis et on peut arriver à trouver des patrons ou des conclusions, ben, notre produit final, finalement, c'est les articles scientifiques. Et c'est là comment on partage ces connaissances au tout public.
D'accord. Alors, si, peut-être quand même pour reparler de l'aspect négatif que j'ai un peu évincé en introduction, mais que vous avez très rapidement repris, la question de l'empreinte finalement environnementale, puisque là, on parle du numérique pour aider à l'amélioration, à la diminution de l'empreinte carbone. Malgré tout, le numérique est aussi critiqué eu égard à ses conséquences négatives sur l'environnement. Il faut pas l'oublier. Et donc, à cet égard, l'Agence de la transition écologique à Paris, l'ADEME, et l'Autorité de régulation des communications, donc qui est l'ARCEP, ont publié une étude assez récente pour mesurer l'empreinte environnementale du numérique en France. On a parlé de l'empreinte et de l'impact carbone du numérique, de l'émission de gaz à effet de serre. Concrètement et techniquement aussi, de quoi s'agit-il si on prend le problème à l'inverse? Alors, Awassam ou Claudia, l'une ou l'autre, comme vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de l'impact carbone généré cette fois par le numérique, en fait?
Mais bon, en résumé, l'impact de carbone du numérique englobe à la fois la consommation directe d'énergie par les infrastructures et les appareils numériques, ainsi que les émissions indirectes tout au long de leur cycle de vie, c'est-à-dire depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation quotidienne et l'élimination. Donc, cela inclut la consommation énergétique des data centers, c'est-à-dire où on stocke nos données, donc même nous, en tant qu'une unité de recherche en biodiversité et écologie, ben nous, on entre aussi de faire des émissions de CO2 à cause du numérique aussi, et parce que nous avons des ordinateurs, plein de ressources qui sont besoin de beaucoup d'énergie, et liées à toutes les opérations quotidiennes, comme la navigation sur Internet, le streaming des vidéos, les communications en ligne, le télétravail, il a laissé aussi beaucoup en augmentation ces émissions.
Et au-delà même, c'est quand même... on voit parfois aborder la question un peu alarmiste, mais d'une certaine façon, de la finitude des ressources qui se posent parce que l'impact environnemental du numérique ne se limite pas à cette empreinte carbone et aux émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on a une fabrication des équipements pour les réseaux, les terminaux connectés qui génère un impact important sur les ressources. Awassam, peut-être, qu'en est-il en termes d'IA? Est-ce que c'est pas un peu utopique et parfois contre-productif de recourir à l'IA pour servir des impératifs environnementaux alors même qu'on épuise de ce fait-là, d'une certaine façon, une grande partie de certaines ressources naturelles? C'est une question un peu ambivalente.
Complètement. Et c'est ça un peu toute la difficulté de jauger finalement qu'elle peut être, en tout cas de mesurer de manière globale l'impact de l'IA. Tout à l'heure, je vous ai parlé de transition écologique du maritime. Cette transition, elle va s'appuyer fortement sur le numérique et l'IA. Les navires sont de plus en plus digitalisés. On a même des navires qui sont contrôlés à distance. Les propulsions des navires peuvent être téléguidées, télépilotées. On a le numérique, l'intelligence artificielle qui s'invite naturellement beaucoup dans les nouvelles technologies qui ont été instaurées et installées à bord des navires dans une perspective de réduction de pollution. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir concrètement
quand le coût du travail de l'IA est supérieur au bilan carbone de la solution environnementale qui est recherchée, est-ce que cela vaut toujours la peine de recourir à l'IA ou pas? Ça, c'est toute la problématique et toute l'ambivalence que vous avez soulignée tout à l'heure, chère Sophie, par rapport à l'utilisation de l'IA. Nous avons dans le secteur maritime, que je connais plus, le groupement des constructeurs des navires, de l'industrie navale, qui a lancé un certain nombre de projets de recherche pour pouvoir estimer et voir dans quelle mesure est-ce que l'impact environnemental du numérique sur les entreprises, de manière générale, peut-être l'impact négatif, peut-être réduit. Donc ça, c'est un travail, je pense, qui va être permanent, puisque quand on va avoir recours à des données, ces données-là vont avoir des conséquences également. On va avoir recours, nos données, comme disait tout à l'heure Claudia, sont stockées dans des data centers. Ces data centers consomment beaucoup d'électricité en termes de climatisation, la question du transfert des données, voilà. Il y a de petites pistes qui sont en train d'être mises en place. L'une des solutions les plus simples, peut-être que c'est de rapatrier, lorsque cela est possible, mais Claudia, spécialiste de la question, pourra nous en parler, rapatrier les data centers, par exemple, en France, lorsque c'est possible, mais ça aussi, c'est une autre problématique, sachant que nos données sont hébergées pour l'essentiel à l'étranger. Donc voilà, mesurer l'impact environnemental du numérique n'est pas une chose simple, mais cela se fait, et je pense que c'est petit à petit ou pas à pas que l'on va réussir à apporter ou en tout cas des solutions ou en tout cas à mettre en place un cadre réglementaire pour une bonne gouvernance de l'impact du numérique sur l'environnement.
Claudia?
Oui, je voulais ajouter à ce qui est dit Sam. C'est vrai, c'est difficile et des fois, on le vit aujourd'hui. C'est une question que je pose beaucoup à Marbec aujourd'hui et en fait, nous avons accordé une grande importance à mesurer ça et c'est pour ça qu'il y a une charge d'émission à Marbec qui s'appelle Marbec Green, qui on essaye déjà on mesure depuis le 2019, on mesure notre émissions. Communauté, c'est-à-dire nous avons des voyages d'émissions à l'étranger, mais nous avons aussi beaucoup d'achats. Et ça, c'est aussi des émissions qui ont produit parce qu'il faut que nous achetons des produits pour les laboratoires, mais aussi des machines numériques, et des serveurs, des stockages locaux. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est très maintenant de chaque année essayer d'évaluer à quel point nos consommations, nos émissions, ils montent dans notre unité, et pour pouvoir avoir des outils pour voir comment on peut réduire. Après, une autre chose importante qu'il a dit avant, c'est vrai qu'il y a une autre chose qu'on peut pas mesurer. Et c'est le fait que même si on donne des émissions, les émissions sont importantes, aussi on donne des opportunités dans le sens où on fait des recherches qui peuvent nous aider à prendre des décisions qui peuvent diminuer dans le temps à suivre. Il peut amener à avoir des stratégies pour pouvoir aider à réduire ces émissions.
Effectivement. Alors peut-être pour rester et pour finir dans le même temps cet échange sur ces aspects tenant à la pollution environnementale, une autre question qui commence à émerger, un peu différente, mais c'est celle de la pollution finalement suite à des accidents qui seraient occasionnés cette fois par ces objets dotés d'IA. On parlait des navires autonomes tout à l'heure, on a donc la question aussi de l'aviation. Et je repense à la question des navires autonomes parce que ces nouveaux algorithmes dont on a parlé, qui sont capables de détecter, de prévenir des anomalies potentielles avant même qu'il y ait des problèmes réels. Et finalement, est-ce que tout ça est infaillible? Vous travaillez sur cette question à Wassam au sein de votre établissement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les recherches et les travaux que vous menez sur ces questions, concrètement de responsabilité, finalement, en cas de dommages?
Bien sûr, c'est une question d'actualité, Sophie, merci de poser la question. Pendant très longtemps, lorsqu'on revient un peu, permettez-moi de faire ce feedback, dans le monde de la navigation, le secteur maritime, la question de l'accidentologie, elle est essentielle. on s'est toujours posé la question de savoir comment on peut faire pour réduire le nombre d'accidents. Et malheureusement, on a toujours lié ce qu'on appelle le facteur humain, l'élément humain, aux causes d'accidents. On s'est toujours dit, s'il y a des accidents en mer, c'est parce que l'humain n'est pas fiable. Et maintenant, alors je prends de grands raccourcis, mais c'est volontaire de ma part, et je reviendrai, je détaillerai tout à l'heure si vous le voulez bien. Pour réduire cette accidentologie, pour réduire le facteur humain, en tout cas du point de vue négatif, on s'est dit il fallait digitaliser, il fallait avoir recours aux navires autonomes. La technologie étant sûre, on est certain derrière qu'il va y avoir moins de pollution, puisque les choses vont être cadrées, les choses vont être… on va apporter des solutions techniques en tout cas, aux problématiques techniques. Toutefois, on se rend compte que la technologie elle-même n'est pas infaillible, comme vous venez de le dire. La sécurité, le risque zéro n'existant pas, cette technologie aussi va questionner derrière. Alors, pour apporter également une question quelque peu simpliste à cette problématique-là, des lacunes technologiques qui sont utilisées pour pallier les insuffisances humaines, on va utiliser dans le monde maritime le système de la redondance. C'est-à-dire qu'on va essayer de prenons l'exemple concret d'un navire à passagers, sachant qu'un navire à passagers qui va transporter, par exemple, plus de 3000 passagers, sans compter les membres d'équipage, il est complètement impossible, ou en tout cas extrêmement difficile, d'évacuer ce navire-là en termes d'accidentologie. Et quand il y a un accident, on va mettre en place le principe du « safe return to port ». Et ça, c'est une exigence réglementaire qui impose la redondance des moyens de propulsion, des moyens de sauvetage et autres. Le navire doit rentrer par ses propres moyens à bon port. Et ça, c'est une innovation également réglementaire qui va venir pour contrecarrer quelques difficultés techniques que l'on peut avoir. La question de la des cyberattaques également. On a mis en place un certain nombre, en tout cas, on a cherché à faciliter la communication navire-terre et entre navires, et on se rend compte, pareil, que derrière, on va avoir des conséquences puisque ce navire étant fortement digitalisé, peut être détourné à des fins crapuleuses, il peut y avoir des attaques cyber, il peut y avoir un certain nombre d'actes malveillants. Là aussi, pareil, on va mettre en place des guidelines, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et là, le secteur, de manière générale, s'est mobilisé depuis un certain nombre de temps au regard de la recrudescence des actes illicites de manière générale, pour mettre en place ce qu'on appelle des mesures, des normes de bonne pratique, qui deviennent de plus en plus obligatoires dans certains pays, pas au niveau international, mais dans certains pays, c'est devenu obligatoire, où l'armateur, celui qui met en œuvre, qui utilise, puisque le navire reste quand même un outil, qui utilise cet outil-là, doit le sécuriser, sachant que le risque zéro, comme je disais tout à l'heure, n'existe pas. Donc, un certain nombre de solutions également vont accompagner cette digitalisation des navires, cette digitalisation du monde maritime de manière générale. Là, je vous parle des navires, je peux vous parler des ports. Si on prend l'exemple du port de Shanghai, qui est digitalisé à plus de 80%, voilà, ça pose également, ça facilite le trafic, ça répond à certaines problématiques, mais on ouvre également d'autres problématiques qui vont appeler d'autres solutions ou d'autres. Et c'est là où il y a aussi ce que vous disiez en introduction, Sophie, cette ambivalence également qui est là. Mais l'idée, dans tous les cas, c'est de mettre en avant, en tout cas, je pense que dans le secteur du transport, de manière générale, qu'il soit maritime, aérien ou autre, le principe de précaution, la réduction des risques. Comment mettre en place un cadre juridique qui permette de gérer au mieux les risques. Et lorsque le risque résiduel, il est là, c'est-à-dire le risque qu'on ne peut pas effacer à 100%, comment on va gérer les conséquences de la réalisation de ce risque résiduel. Et c'est toute la problématique de la question du numérique, de la question des données, comment on gère les données, comment on peut rester dans une perspective positive avec toutes ces problématiques-là.
Alors effectivement, on l'entend, on l'a entendu. Merci pour ces échanges. Merci à tous deux. Le droit anticipe certaines choses, peut-être et certainement pas tout encore, mais on n'a peut-être pas aussi non plus conscience des risques que vous soulignez pour conclure, notamment en termes de d'attaques cyber et ils sont effectivement réels et pas des moindres. Merci beaucoup à toutes deux pour cet échange.
Petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires.
Respire de Mickey 3D. On va essayer de le faire pour ce dernier temps de l'émission en s'inspirant des mots qu'avait écrit le professeur Mireille Delmas-Marty en quatrième de couverture de son ouvrage intitulé « Aux quatre vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation » paru aux éditions du Seuil en 2016. Nous vivons dans une société à bout de souffle, désenchantée et plutôt fière de l'être. Une société d'où l'esprit aurait été chassé par la matière, la raison numérisée ne laissant guère de place au rêve. Placer la réflexion aux quatre vents du monde, c'est précisément rêver pour changer le monde, de lui redonner souffle. Mais où trouver le souffle lorsque les interdépendances croissantes paralysent les États et semblent condamner toute action à l'impuissance? Comment transformer ces interdépendances subies en projets communs? En mobilisant les forces imaginantes du droit. Alors que les écueils se multiplient, terrorisme global, dérèglement climatique, désastres humanitaires des migrations, crises financières et sociales, ce petit guide de navigation fournit cartes et boussoles aux femmes et aux hommes de bonne volonté qui n'ont pas renoncé à maîtriser leur destin. Awassam, peut-être, que vous inspirent ces propos et l'image fournie par ces mots?
Merci pour cette lecture. Ce sont des propos très imagés et c'est très conforme au professeur Mireille Delmas-Marty, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Cette lecture appelle, à mon sens, beaucoup de choses. On va parler de... Les premiers mots qui me viennent, c'est la question de la responsabilité des acteurs.
L'autre chose également qui me un constat, elle part d'un constat général, sociétal, et ce, je pense, donne quelques outils pour arriver à gérer ou en tout cas à asseoir au mieux ou apporter des réponses aux différents écueils qui se multiplient. Et puis surtout un message fort qui me parle, c'est de ne pas répondre, en tout cas de ne pas se résoudre à la fatalité ou au fatalisme, et de se dire que le droit, on doit avoir recours aux forces imaginantes du droit en mobilisant tous les outils juridiques que nous avons dans le sens, en tout cas, d'une amélioration, dans le sens d'une prise de conscience, mais également dans le sens d'une réponse collective que l'on peut apporter aux problèmes qui se posent actuellement à l'humanité. Et cette réponse, elle ne peut être que globale.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Awa Sam, docteur en droit, enseignante à l'ENSM, École nationale supérieure maritime, et Claudia Restrepo-Ortiz, ingénieure en calcul scientifique au sein de l'unité mixte de recherche Marbec. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous cette fois à la rentrée, mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. Bon été et à bientôt !